RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, les États-Unis et ce revirement. Matt Gaetz renonce à devenir ministre de la Justice pour Donald Trump. Un revers pour le futur président américain. L'élu républicain en question était très controversé en raison de sa personnalité et de son manque d'expérience juridique. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt ce jeudi contre le Premier ministre israélien, son ancien ministre de la Défense et le chef du Hamas. Depuis cette annonce, les réactions dans le monde entier sont nombreuses, on y reviendra. Dans l'actualité également, le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial. Déclaration aujourd'hui de Vladimir Poutine. Il confirme que la Russie a utilisé un nouveau type de missile hypersonique à moyenne portée en Ukraine. Et on démarre ce journal aux États-Unis. Un rebondissement dans le casting du gouvernement de Donald Trump, élu au début du mois. Le prochain président des États-Unis avait choisi le républicain Matt Gaetz pour diriger le ministère de la Justice. Mais après de nombreuses controverses, finalement, Matt Gaetz renonce à devenir ministre pour Donald Trump, David Thompson.
Il est clair, écrit Matt Gaetz sur le réseau social X, que ma confirmation est devenue gênante. Pour le travail crucial de la transition Trump, je retire donc mon nom de la liste des candidats au poste de procureur général. Ce désistement intervient juste après la révélation d'une seconde accusation de relations sexuelles que le désormais ex-candidat au poste de ministre de la Justice des États-Unis aurait eu avec une prostituée mineure au cours d'une orgie en 2017 avec usage de stupéfiants interdits. Selon les médias américains, cette relation avec cette prostituée aurait duré pendant 4 ans. Cette jeune femme a témoigné devant le comité d'éthique de la Chambre des représentants qui a enquêté pendant 3 ans sur les frasques sexuelles présumées de Matt Gaetz. Les élus de la Chambre ont décidé de ne pas diffuser leur rapport, mais certaines de ces informations fuitent dans la presse américaine. C'est ce qui a sans doute précipité le retrait surprise du sulfureux candidat de Donald Trump au poste de ministre de la Justice. Du coup, les regards se tournent maintenant vers Pete Hegseth, autre choix de Donald Trump, cette fois pour le poste de ministre de la Défense. Se présente télé est lui aussi rattrapé par des accusations, cette fois d'agression sexuelle qui remonte à 2017, mais il reste activement soutenu par le président élu. David Thompson, Miami RFI.
Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt aujourd'hui contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le chef du Hamas palestinien est lui aussi visé et les réactions se multiplient, Pierre-Olivier.
Le principal intéressé, Benjamin Netanyahou, estime que la CPI est antisémite. Le Premier ministre israélien va jusqu'à comparer ses mandats d'arrêt à un nouveau procès Dreyfus. Autre réaction, cette fois du Hamas, qui voit dans ses mandats d'arrêt visant des dirigeants israéliens une étape importante vers la justice. L'Union européenne demande quant à elle à ce que ces mandats d'arrêt soient respectés et appliqués. De son côté, Washington dit rejeter catégoriquement ces mandats. Les juges de la CPI considèrent qu'il y a des raisons de penser que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense, portent la responsabilité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment en ayant volontairement et en connaissance de cause privé la population de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments et d'électricité. La Cour pénale internationale ne disposant pas de sa propre police, c'est sur ses 124 pays membres qu'elle compte pour arrêter et lui remettre les suspects.
Pierre Olivier, au Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Eh bien, il y a eu des frappes par l'aviation israélienne tout au long de la journée. L'Agence nationale d'information a recensé 12 frappes dans la zone au total. L'armée israélienne a de son côté déclaré avoir attaqué des centres de commandement et des infrastructures du Hezbollah. L'est du Liban est également concerné. 22 personnes ont été tuées selon les autorités. L'Iran face à un nouvel avertissement concernant le nucléaire. Des diplomates occidentaux ont dressé ce jeudi à Vienne un réquisitoire sévère contre Téhéran. Ils parlent d'un programme nucléaire troublant avant le vote d'une résolution dans les prochaines heures. L'ambassadrice américaine Laura Holgate a dénoncé des activités nucléaires profondément troublantes. Berlin, Paris et Londres ont déclaré à nouveau que l'Iran avait amassé suffisamment d'uranium hautement enrichi pour, je cite, 4 armes nucléaires. La guerre en Ukraine se poursuit. Kiev a accusé aujourd'hui Moscou d'avoir tiré pour la première fois un missile intercontinental vers l'Ukraine ce matin sur la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse son voisin d'utiliser l'Ukraine comme un terrain d'essai. Alors, quel est le message et à qui s'adresse Moscou? Élément de réponse avec Stéphane Audran, expert et consultant en risques internationaux.
Il y a une intention de signalement stratégique, forcément. C'est une catégorie d'armes qui n'avait jusqu'à présent jamais été utilisée dans aucun conflit. Et c'est une catégorie d'armes qui, jusqu'à présent, qui était réservée à la mise en œuvre de l'arme nucléaire. Les missiles intercontinentaux, dans toutes les puissances du monde, ils ne servent qu'à transporter des armes nucléaires. Et donc, le fait que la Russie emploie cette arme pour une frappe conventionnelle sur l'Ukraine, c'est forcément un signalement stratégique. Vu la distance de la frappe et la catégorie d'armes, moi je penche pour une pression maximum sur les Européens, parce que finalement on est dans des portées qui ne menacent pas l'Amérique du Nord. Et donc on est dans cette espèce de vieille logique qui était la même à l'époque de la crise des euromissiles, de volonté de découplage de l'Europe et de l'Amérique. L'arrivée de Trump est à un moment propice. Les Russes voulaient réagir sur les autorisations de frappe de missiles balistiques américains sur leur territoire. Et donc là, c'est un moyen finalement de dire à l'Ukraine et à tous les Européens, vous savez, on peut tous vous frapper sans menacer l'Amérique. Si les Américains ne sont plus là pour vous défendre, vous serez tout seul.
Voilà donc pour ces propos de Stéphane Audran, expert et consultant en risques internationaux. Les réactions et commentaires internationaux sur ce tir se poursuivent. À Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que la Russie avait utilisé pour la première fois en Ukraine un missile balistique d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres. À Washington, autre déclaration, plus tôt dans la journée, la Russie a tiré un missile expérimental de moyenne portée donc sur l'Ukraine, selon un haut responsable américain. Dans la foulée, en Russie, Vladimir Poutine a également tenu une conférence de presse en s'adressant à la nation à propos de la guerre en Ukraine. Le président russe a revendiqué le tir d'un nouveau missile de moyenne portée. Avec les frappes de missiles occidentaux en Russie, le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, a-t-il également déclaré. Moscou n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie, a-t-il ajouté. Enfin, des agences russes ont également déclaré que Moscou avait averti les États-Unis de son tir de missile hypersonique sur l'Ukraine. La COP29 se poursuit en Azerbaïdjan, dernière phase des négociations autour du montant de l'aide financière pour les pays riches et les pays en développement à bas coût. Le représentant de 134 pays du Sud a réclamé aux pays développés concernés au moins 500 milliards de dollars de financement par an pour le climat d'ici 2030. Nous ne devons pas quitter Bakou sans un chiffre clair, a déclaré l'Ougandais Adonia Ayebar devant tous les pays. En France, près de 45 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les 10 premiers mois de l'année 2024. C'est plus du double de la quantité saisie en 2023 et c'est un record absolu. Le nouveau directeur de la police nationale a dressé un état des lieux du narcotrafic dans les zones police de la France devant une commission au Sénat. On écoute tout de suite les précisions de Marie Casadebé.
Un marché français en pleine expansion avec une forte demande et une offre abondante. De cocaïne en Amérique latine, d'héroïne en Afghanistan, de résine de cannabis au Maroc et de drogue de synthèse en Europe. Voilà pour le tableau dressé par Louis Laugier qui précise qu'en France, la hausse du trafic de cocaïne est particulièrement significative. Les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans pour atteindre près de 45 tonnes en 2024, soit le double de l'année dernière. Une hausse également liée à celle des opérations policière selon le patron de la police française. Autre constat, le trafic de stupéfiants a tendance à toucher les grandes agglomérations comme les villes moyennes, à mobiliser en majorité des réseaux français mais aussi albanais et nigérians et à impliquer des trafiquants de plus en plus jeunes avec une banalisation du recours aux armes qui explique le nombre de victimes collatérales. Ce tableau tend à ressembler à celui de la majorité des pays développés, notamment en Europe où en 2024, la moitié des réseaux criminels les plus menaçants étaient impliqués dans le trafic de drogue.
Les précisions signées Marie Casadebé. Toujours en France, plus de 200 000 personnes privées d'électricité dans l'ouest du pays. La tempête hivernale Caetano a également provoqué des difficultés dans les transports. Plus de 50 départements restent en vigilance orange, neige, verglas et vent. Toujours en France, Thalès fait l'objet d'une enquête pour corruption. Une enquête ouverte en juillet 2024 par le parquet national financier. Cette enquête est menée conjointement avec le Royaume-Uni et porte donc sur des faits de corruption d'agents publics étrangers visant notamment un marché d'armement passé passer par Thalès en Asie. Et puis la fin du blocage du port de Bordeaux, les agriculteurs de la coordination rurale, le principal syndicat agricole mobilisé sur le terrain, maintenaient précédemment ce blocage du port depuis le début de la semaine pour faire pression sur le gouvernement. Parmi les revendications, il y avait la réautorisation d'un insecticide neurotoxique interdit en France, mais encore autorisé dans l'UE.